L'actualité en toute simplicité. Ebenezer International. The Digital Gospel Journal. La radio qui vient vers vous pour vous servir. Vous écoutez Art et Culture. Art et Culture, l'une des différentes rubriques socioculturelles de la RCEI. Votre radio. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de choisir la radio chrétienne Ebenezer International. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous revient avec un nouveau numéro de Art et Culture qui nous permettra aujourd'hui d'entrer dans l'univers de l'auteur et acteur français, Monsieur Thierry de Carbonnière. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de l'intérêt que vous avez porté pour la dernière édition que nous avons réalisée avec l'artiste italien Renato Gambulli. J'ai l'assurance que cette édition vous fera également plaisir et que vous n'hésiterez pas de nous faire part de vos commentaires, vos réactions sur les différents réseaux sociaux où se placent les lecteurs de cette émission. Salutations particulières à tous nos auditeurs branchés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, etc. Sachez que vous êtes libre d'envoyer le lien de ce programme à vos amis, vos proches, vos camarades de classe, vos collègues, afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces différentes émissions que nous mettons à leur disposition, et cela gratuitement. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Hello and welcome to the Digital Gospel Journal, the Radio Ebenezer International. My name is Frank Doristil, your friend podcaster, and I will be your host as you will listen today to a special interview with the French author and actor, Mr. Thierry de Carbonnière. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. www.radioeben-ezerinternational.com. Staying there in peace. Cari amici ascoltatori, buongiorno. Mi rallegro di poter trovarli per una nuova edizione di Arte in Cultura, Art e Culture, concepita per il vostro piacere. Ecco, questa trasmissione, sia in francese come anche tutte le altre del sito, penso che sia molto interessante per tutti quelli cui piacerebbe scoprire un poco più il mondo francofono. Sono il vostro amico podcaster Franck Doristil per la Radio Ebenezer International dalla Francia. Buon ascolto a voi tutti! C'est ce très beau chant de l'artiste Lionel Chineri, son cœur bat, qui nous servira de pont pour aller à la rencontre de notre invité, Monsieur Thierry de Carbonnière.
Toi qui t'attends dans la nuit.
Bonne écoute à toutes et à tous.
À la recherche d'un abri. Les bombes pleuvent autour de toi. Et tu baisses les bras. Tu dis je suis fini, c'est comme ça. Issue de secours pour moi. J'ai souvent tant donné sans jamais recevoir. Cette fois y a plus d'espoir. Aussi ton cœur entendait l'appel qui pourrait tout changer. Tu t'élancerais de tout ton âme vers ce mes bras pour que tu sentes son cœur qui bat, son cœur qui bat pour toi. Inutile de te fatiguer
de l'émission Art et Culture sur la radio chrétienne Ebenezer International. C'était l'artiste Lionel Cinelli, ou Cinelli si vous voulez bien le prononcer en italien, une courtoisie de la société Paul et Sephora que nous remercions de sa courtoisie. Et c'est maintenant le moment d'aller à la rencontre de notre invité, Monsieur Thierry de Carbonnière. Bonjour et merci, Monsieur de Carbonnière, de nous consacrer ce temps si précieux de votre agenda pour la réalisation de ce programme. Je vous accueille amicalement sur les ondes de la radio Ebenezer International.
Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'accueillir. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, je suis très content d'être en votre compagnie et en compagnie des auditeurs.
Eh bien, Monsieur de Carbonnière, c'est au Salon du Livre d'Offranville que j'ai pu vous rencontrer, faire votre connaissance, pardon, pour la première fois. Et c'est aussi cette rencontre qui a fait naître l'idée de cette interview. Merci de bien vouloir vous présenter à nos auditeurs qui vous écoutent de part et d'autre sur la planète.
Alors ça, c'est formidable d'être écouté de part et d'autre de la planète. Ça, c'est la première fois. Écoutez, voilà, moi, je m'appelle Thierry de Carbonnière. Je suis comédien. Je suis comédien depuis pas mal d'années, hein, depuis plus de 35 ans. Et j'ai fait le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. J'ai fait ensuite beaucoup de théâtre, dans ce qu'on appelle le théâtre subventionné, c'est-à-dire... Pas le théâtre de boulevard, le théâtre un peu partout en France et puis à Paris dans les grands théâtres, quoi, voilà. Et puis j'ai fait en même temps du cinéma avec Alain Corneau, avec Kieslowski, avec Anne Fontaine, avec pas mal de gens, Max Pécasse et d'autres. Et puis j'ai fait de la télévision, et dans mon parcours à la télévision, j'ai eu la chance, bon oui, c'est comme la chance, de jouer un grand rôle dans plus belle la vie, qui est un feuilleton qui est très regardé, et c'était un rôle vraiment marquant. C'est un rôle de méchant, c'était la première fois que je jouais un rôle de méchant, et ça a été assez formidable. Et depuis une dizaine d'années, j'écris. Donc là, je viens de faire paraître mon premier roman, qui s'appelle « Salut et applaudissements » aux éditions Rive-Neuve, et qui en est à sa 8e réimpression, et qui fait un véritable buzz dans le métier et au-delà, parce que je parle du métier d'acteur, mais on va dire, j'en dévoile la difficulté, j'en dévoile la cruauté, j'en dévoile les joies aussi, mais surtout, je montre la vie d'un comédien qui joue des petits rôles, alors qu'il a appris son métier en jouant des grands rôles, et comment ce paradoxe de ce métier fait naître en lui beaucoup d'angoisse et en même temps des scènes très drôles parce qu'il y croit toujours.
Deux Carbonnières, c'est pas la peine de vous demander si vous êtes français d'origine. Ce particule 2 me fait penser à quelqu'un qui vient d'une famille très noble. Vous êtes français, vous venez de quelle région de la France? Et puis, êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Permettez-nous d'entrer dans ce petit coin de votre univers.
J'ai trois enfants et alors bah, deux Carbonnières, bah, écoutez, c'est ce qu'on appelle une vieille famille française qui date de l'an 1000, donc c'est une vieille famille. Et c'est une famille qui est d'une région qu'on connaît peu, qui s'appelle l'Axantrie. L'Axantrie, c'est une région qui est autour de Brive. Et c'était ce qu'on appelle une noblesse terrienne, ça c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, je viens de l'île de la Réunion.
Ah.
Donc voilà, c'est un mélange tout à fait étonnant, et d'ailleurs j'en parle dans mon deuxième livre. C'est un mélange dont j'ai pris conscience il y a très peu de temps. Je le vivais comme quelque chose de pas facile, et depuis quelque temps, le fait d'écrire m'a amené à revisiter mon passé aussi, je pense tous les écrivains. Et donc j'en mesure la richesse seulement maintenant, on va dire. Et c'est l'un des sujets de mon deuxième livre.
C'est excellent. Merci beaucoup pour cette ouverture. Et Monsieur Thierry de Carbonnières, vous avez eu une formation dans deux conservatoires différentes. La première, conservatoire d'art dramatique de Paris, et la deuxième, au conservatoire de la rue Blanche. Pourquoi avez-vous choisi cette voie, le théâtre?
Alors, c'est d'abord la rue Blanche et après le conservatoire. Et avant la rue Blanche, il y a eu des cours. Il y a beaucoup de cours privés de théâtre à Paris. Je crois qu'il y a 200 cours privés. Il faut savoir que Paris, c'est une ville, c'est, je crois, la ville où il y a le plus de théâtre au monde. Il y a une offre incroyable à Paris. Il y a 500 spectacles par soir. Ça paraît étonnant, mais bon,
c'est extraordinaire.
Et oui, bien sûr, c'est une richesse et c'est extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi je dirais que moi, j'avais une formation plutôt sportive. Je jouais au handball et j'étais dans une école je voulais devenir professeur de gymnastique. Et puis, pour des raisons que je comprends, mais qui sont difficiles à expliquer, j'ai été dans un cours de théâtre et j'ai mis le pied sur un plateau de théâtre et j'ai compris que j'étais chez moi au théâtre. Et donc c'est plutôt le théâtre qui m'a pris que moi, vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est devenu une passion de tous les jours. Et quand j'avais donc 20 ans, 21 ans, et depuis cette passion ne m'a pas quitté, chaque jour je me lève, j'ai envie de jouer ou d'écrire.
Voilà. Le théâtre, est-ce une simple passion ou un choix professionnel ou un métier dont vous vivez?
Donc voilà, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas dire une simple passion. Hein. Une passion, ça vous prend toute la vie, donc c'est une passion qui me prend toute la vie. Et c'est mon métier, et donc j'en vis depuis 30 ans. Voilà.
Et Et le théâtre vous permet de gagner votre vie comme
Le
vous
théâtre,
l'auriez
le cinéma, la
souhaité.
télévision, et puis maintenant un peu l'écriture aussi. Et puis vous savez qu'en France, il y a les comédiens, s'ils travaillent assez, sont intermittents du spectacle, et donc ils ont un statut qui est un petit peu favorable par rapport aux autres, il faut bien le dire quand même, et donc qui lisse un peu le côté financier, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle le chômage, quoi. Oui. Donc entre deux rôles, on n'a pas rien, quoi. On a un peu d'argent grâce au chômage, aux acédiques.
Et comment et à partir de quel moment? Il est vrai que vous venez de nous brosser une petite partie de cette attirance vers le théâtre, mais à quel âge vous avez compris que votre place se trouvait dans cet univers particulier? Auriez-vous une
Oui, ben,
idée?
je vous le dis, si j'essaye de réfléchir, de bien réfléchir et de remonter, voilà, j'ai vraiment mis le pied sur un plateau de théâtre et je me suis senti chez moi. Alors c'est vrai que mon grand-père me récitait des passages de Cyrano de Bergerac, de Britannicus, de Bérénice, des grandes pièces donc classiques quand j'étais petit. Mais le fait de se montrer dans la lumière, de se mettre dans la lumière pour jouer un personnage devant les autres, ça ne m'avait pas du tout effleuré l'esprit. Et c'est quand je l'ai fait que... Vous savez, dans la vie, quand... Et là, je parle aux jeunes, hein, y a des choses qu'on fait sans explication. On fait par intuition. Donc il faut suivre ses intuitions, c'est très important. Et même encore maintenant, pour écrire un livre, il faut avoir une intuition, il faut, parce que c'est tellement fou comme entreprise. Donc il faut suivre ses intuitions. J'ai suivi une intuition qui m'a amené là où je suis maintenant. Alors.
D'une formation de sportif, vous vous retrouvez dans le théâtre et depuis, le voyage continue sur cette voie avec
Exactement ça. C'est
la
exactement
même
ça.
détermination première. C'est comme si vous étiez dans un monde et puis vous vous retrouvez du jour au lendemain dans un autre monde.
Voilà, alors la seule chose, c'est que dans ce premier monde-là, c'était un monde difficile aussi. Vous savez, le sportif de haut niveau, c'est moi je faisais 25 heures de sport par semaine. C'est très difficile. Il y a la compétition. J'adore la compétition. J'adore ça. Pas pour battre les autres, mais pour essayer de progresser moi. Et on retrouve quand même un peu ça aussi dans le cinéma, la télé, et même l'édition, hein, on retrouve ce côté compétiteur. Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'adore la compétition, j'adore ça.
Excellent. Nous allons prendre notre première pause musicale. Connaissez-vous beaucoup d'artistes suisses en France, évoluant en France ou bien tout simplement dans votre répertoire vous-même?
J'ai pas compris la question.
Connaissez-vous beaucoup d'artistes suisses qui soient évolués en France ou tout simplement vous aimez leur musique, vous achetez leur album depuis
D'artistes suisses.
artistes suisses?
Ah, d'accord. Moi j'ai des copains comédiens suisses. Et moi-même j'ai été joué en Suisse à Lausanne, dans un théâtre qui s'appelle l'Artistique Théâtre ou un truc comme ça. À Vili, j'ai été joué en Suisse, moi.
Super. Eh bien, nous allons faire un petit voyage musical en Suisse. C'est un artiste, un ami de notre radio qui s'appelle Philippe Decourou, qui va nous interpréter un morceau intitulé Une autre terre, qui correspond parfaitement à ce volte-de-face que vous avez fait du sport, ou bien, oui, du sport pour vous retrouver dans le monde du théâtre. Je vous dédie amicalement ce morceau, monsieur notre invité Thierry de Carbonnière. Philippe Decourou à l'émission Art et Culture. Bonne écoute à toutes et à tous. Art et Culture.
75, des rêves plein la tête. Pas le temps de chercher qui je suis, d'où je viens. Je cours, rien ne m'arrête. Sur le bateau de la musique, je m'engage à perpète. Je n'ai rien qu'un désir pathétique, le besoin de connaître une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un petit univers sous le soleil. Je prends la route déterminée, coûte que coûte, je vais trouver. Été 1985, bateau en perdition. Sur mon océan, tous déglingue, c'est le temps des questions. Au fond de moi, l'appel résonne, brûlant comme un grand feu. Je saisis pas tout, mais je m'abandonne. Je découvre avec Dieu une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un nouvel univers sous le soleil. Je change de route, nouveau départ. Je bannis le doute et le hasard. L'automne 1995, je ne peux plus me taire. Je veux chanter, crier sans fin l'amour et la colère. Peupler le ciel, piller l'enfer. Je suis pas seul et j'avance. Chaque jour faire la guerre à la guerre. Partager l'assurance d'une autre terre, un autre ciel. Pour toi un nouvel univers sous le soleil. Je t'ouvre la route, faut décider. Bannir tes doutes et t'engager. Hiver de mille et des poussières, je tire ma révérence. Dernier appel, dernière prière, moi j'écoute en silence. J'ai fait le mieux que j'ai pu faire, je laisse pas de regrets. Je passe le flambeau, tu es derrière, sans moi pour annoncer une autre terre, un autre ciel. Pour toi un nouvel univers sous le soleil. Fini ma route, je pars sans toi. Je laisse pas de doute, je t'attends là-bas. Fini ma route, je pars sans toi. Je laisse pas de doute, je t'attends là-bas. Une autre terre.
Every day, anywhere, anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International, your station.
Suivez, chers amis à l'écoute, l'émission Art et Culture, l'une de nos rubriques socio-culturelles mises à la disposition des artistes, des comédiens, des philosophes, des penseurs qui veulent faire découvrir leur travail par le biais de nos ondes. Notre invité à cette nouvelle édition, c'est bien Monsieur Thierry de Carbonnière, qui est non seulement acteur, mais qui vient de publier un livre dans lequel il parle de la vie des acteurs. Alors, Monsieur de Carbonnière,
oui.
Depuis la fin de vos études en art dramatique, dans combien de projets avez-vous participé? Et s'il y en a trop, vous pouvez juste nous donner quelques exemples.
Voilà, j'ai participé à plus de 20 films et téléfilms et une trentaine de pièces de théâtre. Donc bah, j'ai joué donc, avec Alain Corneau, avec Francis Giraud, avec Max Pécasse, avec Jean-Charles Takela, Francis Giraud encore, Christophe Kieslowski. Voilà, au théâtre, ça c'était au cinéma. Au théâtre, j'ai joué avec Jean-Pierre Miquel, avec Muriel Mayette, avec Micheline Kahn, avec Klaus Gruber, avec Étienne Pommeret, Catherine Anne, plusieurs spectacles. spectacle avec Catherine Anne, enfin Jérôme Savary, Yves Bonnen, voilà, vous voyez beaucoup de... Et j'ai joué aussi avec Frank Hoffmann au Théâtre National du Luxembourg. Donc voilà, beaucoup de projets, et puis à la télévision, comme je vous disais, avec Guy Seligman, avec Edouard Nirmans, avec Robin Davis, et puis avec plusieurs, réalisateurs de Plus belle la vie, 40 épisodes. Donc voilà, j'ai vraiment un parcours éclectique, on va dire.
Donc si je comprends bien, vous êtes très connu en France pour les fans du petit écran ou bien du théâtre.
Non, je ne suis pas très connu. Non. Soyons honnêtes. Par contre, c'est vrai que les gens me reconnaissent un petit peu dans la rue de temps en temps. Juste après Plus belle la vie, tout le monde me reconnaissait. C'est très, très agréable. Moi, j'aime beaucoup ça. Surtout que les gens sont très gentils. Ils viennent, ils vous parlent de votre rôle. Enfin, moi, ils me parlaient beaucoup de mon rôle. Mm-hmm. Et donc, j'ai apprécié énormément cette reconnaissance. Voilà. Donc, les gens me reconnaissent un peu dans la rue, mais je ne suis pas très connu.
Pas très connu. Eh bien, le théâtre, Thierry, tout comme la musique et le chant, comporte plusieurs styles. En avez-vous un de particulier ou vous sentez-vous à l'aise dans n'importe quel style quand on parle du théâtre?
Alors moi, vous savez, je suis vraiment à l'aise dans tous les styles de théâtre. Ça va vous faire bizarre que je vous dise ça, mais j'aime tout. J'ai une passion absolue pour Molière, bien sûr. Mm-hmm. Passion absolue. C'est-à-dire que je pense bientôt jouer le Misanthrope, j'ai très envie. Quand je serai vieux, j'aimerais beaucoup jouer Arnolphe, mm-hmm. des femmes. Voilà, Molière, j'ai une passion absolue pour Molière, Shakespeare bien sûr. Et j'aime le grand théâtre, vraiment le grand théâtre. J'adorerais jouer une pièce de boulevard aussi. Je suis moi-même en train d'écrire une pièce qui se jouera, j'espère, l'année prochaine. Au boulevard.
Donc cela voudrait
dire... J'aime beaucoup aussi, j'ai une particularité, j'ai beaucoup travaillé le clown. Mm-hmm. Donc voilà, vous voyez, j'aime beaucoup de choses, voilà.
Est-ce que cela voudrait dire que dans les prochains mois ou prochaines années, on risque de vous voir en one-man show en train d'évoluer sur une scène, dans une salle de théâtre ou même dans une émission de télé, par exemple, non?
Oui, oh bah oui, je pense. Là, je suis vraiment en train de travailler sur des projets où... et ça, je crois que c'est la deuxième partie de mon parcours de comédien, c'est que j'essaye de monter des projets et où je vais jouer ma propre écriture. Ça, j'ai très envie de ça.
Excellent. Et vous êtes connu surtout comme le prof de philo dans la série télé Plus belle la vie. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette émission et pourquoi ce rôle particulier, un prof de philo?
Alors, vous savez, nous les comédiens, on cherche du travail. Donc, ce qui m'a conduit à jouer ce rôle, c'est d'abord de gagner ma vie. C'est très simple, hein. Vraiment très simple. Et puis, la personne qui fait le casting de Plus belle la vie, qui s'appelle Laurence Lustig, je la connais depuis très longtemps. Et plusieurs fois, elle m'avait mis sur des projets que ça n'avait pas marché. Et là, elle a pensé à moi. Et ça a marché, vous voyez. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Mm-hmm. C'est faire mon métier et gagner ma vie. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai joué en toute innocence, jouer un méchant. Les méchants, il faut les jouer en toute innocence. Mmh, plus vous êtes l'acteur qui joue le méchant est innocent, plus le méchant paraît méchant. Donc voilà ce qui m'a amené à jouer ce rôle.
Et continuez-vous de tourner avec cette émission, Plus belle la vie?
Non, c'était un rôle qui était sur une intrigue, hein, c'est-à-dire 40 épisodes, voilà, c'est une intrigue, et puis peut-être qu'il va revenir, parce qu'il n'est pas mort, on ne sait jamais, mais voilà, non, j'ai arrêté.
Et au cinéma, vous avez tourné avec pas mal d'acteurs. Vous venez de nous citer la liste. Peut-être que c'est juste une partie de ces personnes avec lesquelles vous avez collaboré. Et quel rôle vous a le plus marqué dans toutes ces interventions, toutes ces collaborations avec ces différents acteurs?
Pour qu'un rôle vous marque, il faut qu'il ait des choses à dire, faut qu'il y ait soit quelques scènes fortes. C'est difficile qu'un petit rôle vous marque, mais il y a plusieurs rôles qui m'ont marqué. Donc il y a le film que j'ai tourné avec Anconina, Richard Anconina, réalisé par Alain Corneau, qui s'appelle Le Môme, où là le rôle était vraiment très intéressant. En plus, il y avait des cascades en voiture à faire, donc on a passé 3 semaines à tourner que la nuit, donc ça c'était très intéressant. La deuxième chose, c'est un court-métrage que j'ai tourné avec un monsieur qui s'appelle Marc Ponette, qui s'appelle Un type disponible, qui m'a beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a bien sûr le film avec Max Pécasse qui s'appelle Brigade des mœurs, où j'avais le rôle principal. Un film assez violent, hein, un film de série B assez violent que j'ai fait quand j'étais au conservatoire. Donc voilà.
Merci pour ces précisions. Nous allons prendre une deuxième pause musicale, mais il y a quelque chose que je répète souvent dans mes interviews. Chez nous, en Haïti, vous savez très bien que je viens d'Haïti, il y a un artiste qui a écrit un chant dans lequel il a dit que les musiciens sont une seule famille, peu importe leur nationalité. Donc, à chaque fois qu'un musicien rencontre un autre musicien, c'est comme s'il rencontrait un membre de sa famille. Bon, c'est pas toujours vrai, mais dans le monde théâtral, quel genre de relation y a-t-il entre les acteurs? Quand vous rencontrez quelqu'un qui est acteur et vous lui dites, moi aussi je suis acteur, comment cette personne perçoit ce message? Quel genre de lien existe-t-il entre les acteurs?
Alors, c'est assez complexe. On va prendre au moins 2 minutes. Je vais prendre au moins 2 minutes pour répondre à cette question, si ça ne vous gêne pas. J'ai longtemps cru qu'il y avait une famille des acteurs. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de famille d'acteurs. Les acteurs sont omnubilés par eux-mêmes. Ce qui est normal, hein. Je ne suis pas en train de dire que les acteurs sont méchants, mais ils sont vraiment omnubilés par eux-mêmes. Et pas seulement leur réussite, hein, mais c'est essayer de trouver le rôle, essayer de rentrer en contact avec un réalisateur, un metteur en scène pour être sur un rôle intéressant. Donc il n'y a pas de famille d'acteurs, vous voyez. Par contre, moi, malgré ça, malgré la difficulté de nos relations entre acteurs, j'aime beaucoup les acteurs. Mais malgré qu'ils sont chiants, qu'ils sont très tournés vers eux-mêmes, ça fait rien. Ça fait rien. Je les aime beaucoup parce que c'est des gens souvent quand même très cultivés, du fait qu'ils ont appris leur métier en travaillant des grands auteurs. Vous savez, quand vous travaillez des grands auteurs, les grands auteurs vous redonnent beaucoup. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas de famille, hein. Bon, il y a des gens qui vont dire d'autres choses, mais il n'y a pas de famille.
Donc, c'est un monde où il y a beaucoup de concurrence, l'égoïsme, l'égocentrique, je ne sais pas.
Alors, je dirais pas égoïsme, égocentrisme, je dirais pas ça parce que c'est un peu. Non, c'est des gens, les acteurs, ils sont obnubilés par eux-mêmes. Vous voyez, c'est pas, je mets pas, je ne juge pas, je dis pas si c'est un défaut ou une qualité, mais ils sont obnubilés par eux-mêmes. Donc le monde entier passe par eux. Donc vous voyez, c'est pas très drôle. Mais ceci dit, c'est quand même, le métier d'acteur, c'est un métier généreux quand même, puisque on est amené à jouer nos semblables.
Donc c'est un
Donc
monde où
voilà.
il est très difficile de percer quand on n'est
Oui,
pas
c'est
bien
très, très.
entouré.
Mais pour ça, et là je parle à vos auditeurs, s'ils veulent comprendre comment c'est difficile, ils n'ont qu'à lire mon livre, puisque c'est la première fois qu'un acteur ose parler de la difficulté et de la cruauté de ce métier.
Eh bien, nous
Voilà.
allons en parler
C'est pour ça que le
d'ici.
livre marche bien, parce que je dis des choses qu'on ne dit jamais. Et surtout, je le dis avec beaucoup d'humour. Je crois que vous en êtes rendu compte. J'ai beaucoup de distance par rapport à tout ça.
Nous allons revenir sur la question de votre livre, puisque c'est la colonne vertébrale même de notre émission. C'est ce qui a donné naissance à cette émission, comme je l'ai dit dans mon introduction. Mais avant de passer à cette troisième et dernière partie, nous allons proposer à nos auditeurs un morceau intitulé « Pas d'accord ». Vous venez de dire, ou du moins de faire votre analyse du monde théâtral. Certaines personnes diront sans doute le contraire, et c'est tout à fait normal. Et ce qui donne sa bonne place à ce morceau intitulé « Pas d'accord » que vont nous interpréter un couple, c'est Denis et Isabelle Haye. C'est des Français, hein? Même si ces noms ne vous disent rien du tout, ils sont parfaitement bien. Et je pense qu'avec la radio Ebenezer International, vous allez découvrir toute une pléiade d'artistes méconnus du monde séculier, pourtant qui font un excellent travail aussi dans le monde du gospel, dans le monde où nous évoluons, nous, avec cette radio. Bonne écoute à toutes et à tous, et nous vous reviendrons juste après pour la troisième et dernière partie de notre programme.
Ebenezer International, la radio qui vient vers vous pour vous servir. Digital Gospel Channel, your station.
Thierry, vous n'ignorez sans doute pas que votre voix va passer ou bien passe actuellement sur une radio chrétienne. Ça ne vous pose pas trop de problèmes?
Ah non, pas du tout. voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert. Je sais l'importance capitale qu'ont eu toutes les religions, hein, pas seulement les religions chrétiennes, mais toutes les autres aussi dans le parcours de l'humanité, et que je crois que sans les religions, on n'en serait pas où on en est, et je ne sais même pas si l'humanité aurait survécu, parce que les religions quand même apportent une réponse à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Bon, voilà. Ah, ça, c'est donc très très important, c'est une angoisse qu'on a tous de savoir qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Maintenant, moi, je fais partie d'un autre courant qui est né peut-être il y a 200 ans, enfin je ne sais pas combien de temps, les gens qui sont athées, c'est-à-dire qui ont une spiritualité laïque et qui disent, après la mort, je ne sais pas ce qu'il y a, je n'ai pas de réponse. Alors, c'est un désavantage, hein, c'est pas très drôle, mais j'essaye de réfléchir autour de ça, et d'ailleurs ma prochaine pièce va parler de ça, et je pense qu'il va y avoir des débats très intéressants là-dessus. Donc voilà, donc non, ça me gêne pas du tout de parler sur une radio chrétienne, j'en suis même tout à fait content.
J'apprécie cette ouverture d'esprit de votre part et je souligne cette humilité aussi. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Quand quelqu'un se dit athée parfois, c'est pas qu'il est sûr de ce qui existe après cette existence-là, mais c'est tout simplement la confession de sa propre limitation en quelque sorte, hein.
C'est un débat très intéressant que vous ouvrez là. On pourrait parler pendant très très longtemps. C'est vrai que moi, le fait d'être athée et de ne pas savoir ce qu'il y a après, c'est évident que je n'ai pas de réponse que vous, les croyants, vous avez.
C'est
Et
ça, c'est ça.
ça, et le champ est ouvert. Le champ est ouvert.
C'est ça.
C'est-à-dire que
oui.
Nous sommes, comme dirait Jacques Lucéran, le monde commence aujourd'hui. Nous avons tout à faire. Nous avons tout à faire, tout, et tous ensemble, ça c'est très important, vous les croyants, hein, de quelque religion que ce soit, et nous les athées, on a tout à construire ensemble.
Ah, merci beaucoup Thierry pour cette lumière, cette ouverture. Et je pense que cette réponse doit aussi nous aider, nous qui croyons, à voir les non-croyants ou bien les athées différemment, pour ne pas penser que c'est des gens qui ont une réponse catégorique, c'est des chercheurs en quelque sorte.
Ah, vous avez prononcé le mot. Moi, je suis un chercheur. Je suis un chercheur. C'est exactement ça. Ah, ça me fait plaisir.
Merci Thierry. Peut-être qu'un jour, on reviendra avec une autre intervention qui ne sera pas basée sur l'art, mais sur la spiritualité, qui sait. Mais revenons au but principal de notre rencontre aujourd'hui, qui est votre carrière d'artiste, pardon, artiste, oui, en quelque sorte, de comédien, homme de théâtre et surtout d'écrivain maintenant. Alors, c'est en tant qu'auteur que nous nous étions rencontrés au Salon du Livre d'Offranville. Qu'est-ce qui a donné naissance à votre livre et est-ce que c'est tout le premier ou bien vous en avez déjà écrit d'autres?
Alors, c'est mon premier livre, et ce qui a donné le naissance à ce livre, c'est un choc. J'ai eu un choc, mais un choc très profond, hein. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de jouer soit des premiers rôles, soit des seconds rôles, mais qui participent à l'histoire, hein. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé à jouer un tout petit rôle qui ne participait pas à l'histoire et qui venait ponctuellement sur scène et qui avait très peu de répliques, mais vraiment très peu de répliques. Et c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que j'ai failli devenir fou parce que j'avais rien à faire. J'attendais dans la loge et je faisais rien. Et j'entendais les autres jouer et moi, je ne faisais qu'attendre. Et au lieu de ne rien faire, j'ai acheté des carnets et j'ai écrit sur ces carnets ce que je ressentais, tout ce que je ressentais à l'intérieur. On peut le dire, hein, la frustration, mais aussi les envies, ma passion qui ne pouvait pas aller sur scène. D'un seul coup, cette passion de créer, cette passion du beau, on va dire, elle s'est déversée sur des carnets. Et puis après, j'ai montré ces carnets à quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition et il m'a dit, mais Thierry, il y a un livre. Et donc
Ah.
après, j'ai écrit un livre. Voilà.
Donc, en résumé, de quoi est-il question dans ce roman portant votre signature sans donner toutes les informations pour ne pas empêcher les auditeurs d'aller voir, d'aller acheter ce livre, mais un résumé du contenu de ce livre?
Eh bien, c'est l'histoire d'un comédien qui joue un rôle où il a une seule phrase à dire. Voilà. Donc, il vient au théâtre et il ne fait qu'attendre pour aller dire une seule phrase. Et donc, c'est tout son parcours intellectuel, émotionnel, et comment aussi parfois il se trompe. Comme il a une seule phrase à dire, il est tellement concentré, tellement angoissé à ne pas se tromper qu'il se trompe. Et puis, petit à petit, on pénètre dans sa vie de comédien, on voit tout ce qu'il fait à côté pour survivre. Il fait des Pères Noël, il fait du doublage, il fait des formations de prise de parole en public dans l'entreprise, il va à des castings. Et donc, à partir de la loge où il attend pour aller dire sa phrase, on découvre toute la vie de ce comédien. Et en fin de compte, mais ça je ne le savais pas, on découvre la vie de ce que vivent 90% des acteurs en France.
Donc, vous avez présenté ce carnet avec les grandes lignes de ce livre qui allait naître à un éditeur.
Voilà.
Il vous a dit, voilà, il y a un livre en gestation. Est-ce que c'est ce même éditeur qui vous a publié ou bien comment
exactement
s'est passée la suite?
Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que alors après, il a fallu travailler, hein. Il a fallu mettre en ordre, il a fallu s'y travailler avec une correctrice, il a fallu retravailler une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, bon, ben voilà, c'était prêt, quoi.
Donc, c'est même pas la peine de vous dire est-ce que vous l'avez publié en compte d'auteur ou compte d'éditeur, est-ce qu'il était facile de trouver un éditeur. Donc, ces questions n'ont pas d'importance pour vous.
Ah, si, mais je vais vous répondre. Donc, c'est un livre qui a été publié à compte d'éditeur, et donc avec une diffusion nationale chez Interforum. Oui, ça a été difficile quand même. Ça n'a pas été difficile de trouver un éditeur, mais ça a été difficile d'arriver au produit final, parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais en fin de compte, j'ai été à ma propre école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris à structurer, à penser. J'ai appris à structurer un livre aussi, à faire en sorte qu'il y ait du suspense, qu'on ait envie de tourner les pages. Donc j'ai été à ma propre école. Donc voilà. Et ce qui fait que le deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est pas plus facile, mais quand même, j'ai des repères, voilà.
Donc, combien de temps vous avez mis pour terminer, pour commencer, terminer ce premier livre?
Alors, un an d'écriture au théâtre, seul dans ma loge, et puis après 6 mois, bon, bah, j'ai laissé comme ça, et puis après j'ai repris une année, et après encore une année, donc en tout, on peut dire au moins 3 ans et demi.
Donc au théâtre, un acteur peut passer beaucoup de temps sans rien faire, juste en écoutant les autres faire de belles choses qu'il aimerait lui faire à leur place.
Vous avez tout à fait résumé le propos de mon livre. Alors j'en ris parce que je trouve ça ridicule, parce que j'ai toujours beaucoup de distance par rapport à ce que je fais, et je ris de moi en premier. Je ris de moi en premier, hein. C'est de soi qu'il faut rire en premier. Mais oui, il y a beaucoup d'acteurs qui, au théâtre, attendent dans leur loge et ne font rien.
Mais est-ce que ce que vous avez vécu en tant qu'acteur, c'est pas la même chose que vivent aussi les joueurs de foot ou dans n'importe quelle discipline qui sont des remplaçants?
C'est pareil, c'est exactement pareil. Il y a ceux qui sont dans la lumière et puis il y en a un qui vient dans la lumière, mais juste pour taper une balle et puis il ressort du terrain. Voilà, c'est ça.
Donc ce livre ne doit pas intéresser que les acteurs, que les gens qui aiment le cinéma. Toutes les personnes qui sont appelées un jour à s'asseoir pour attendre l'occasion pour remplacer un autre, si jamais l'occasion se présente, ce livre doit les intéresser, je pense.
Ah, mais c'est exactement ça. Ben, vous savez, il est en 8e réimpression, donc c'est parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas de ce métier qui le lisent, hein, bien sûr. Oui, non, mais c'est exactement ça.
Merci Thierry pour ces bonnes et précieuses informations. Écoutez, l'écriture traduit-elle un divorce avec le cinéma ou un renforcement de ce lien?
Bah, écoutez, c'est un renforcement de ce lien puisque je suis en train d'écrire un scénario pour Agathe Film. Donc voilà, on est bien, bien avancé, on en est à la troisième version. Donc non, l'écriture, non, ça renforce le lien.
Thierry de Carbonnière, le temps départi à ce programme est limité, comme vous le saviez mieux que moi. Quels sont vos projets à court et à moyen et même à long terme?
Alors le projet à court terme, donc c'est de finir de coécrire ce scénario, ça c'est la première chose. Deuxième chose, à moyen terme, c'est de publier mon deuxième roman.
Mmh.
Et à long terme, c'est de finir ma pièce de théâtre et d'intéresser un producteur de théâtre et un tourneur de théâtre pour la jouer. Voilà les trois projets. Et je suis aussi sur un projet, mais ça c'est à plus long terme, un projet de 4 fois 52 minutes pour la télévision.
Mmh. 4 fois 52 minutes pour la télévision. Donc, vous avez beaucoup de projets en cours actuellement, je pense.
Oui, et la particularité de tous ces projets, c'est que je les écris. C'est-à-dire que j'ai arrêté, et ça, les auditeurs comprendront, j'ai arrêté de vivre ce que vit mon héros dans mon livre « Salut et applaudissements ». J'ai arrêté d'attendre. Voilà. Je n'attends plus que les réalisateurs, les metteurs en scène me téléphonent. C'est moi qui vais au-devant, c'est moi qui écris du théâtre, c'est moi qui écris du cinéma, c'est moi qui écris de la télévision. Vous voyez, je ne veux plus attendre.
Et à côté de tout cela, il y a aussi les séances de dédicace de votre livre, les salons du livre, les fêtes du livre, tout ça. Et très
oui.
Bientôt, je vois que vous êtes programmé pour le salon du livre de Dieppe, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, je serai au Salon du Livre de Dieppe les 10 et 11 juin.
Je pense que nous nous rencontrerons à cet endroit-là, sans doute.
Super. Et en mois de juillet, je suis à Saint-Val-la-Hougue. Et puis, enfin, j'ai pas mal de dates. Voilà.
Eh bien, Thierry, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et pour conclure, auriez-vous un dernier mot? Il y a des jeunes qui vous écoutent, des gens de tous les âges, je pense. Quel serait ce dernier mot qui pourrait intéresser tous les auditeurs qui vous suivent en ce moment?
Eh bien, je vais vous citer une phrase de Goethe qui dit « On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. »
Wow.
Voilà. C'est ce que j'ai fait avec mon premier livre. C'est ce que je fais avec mon deuxième livre. C'est-à-dire que on fait du beau, on raconte de belles histoires avec des choses difficiles à vivre. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur. Ça, je le dis à tous vos auditeurs. Si ils ont envie d'écrire, s'ils ont envie de jouer, de je sais pas, de peindre, d'écrire de la musique, il faut le faire.
Ah, c'est excellent. Bon, Monsieur Thierry de Carbonnière, nous allons mettre fin à cette interview. J'ai un dernier morceau à proposer à nos auditeurs qui sera interprété par un bon ami de la radio. C'est un artiste américain qui s'appelle Steve Puglio. Un morceau intitulé « Smile ». Sourire ou bien rire. Je crois que vous avez beaucoup d'amis qui vont écouter cette émission. Voudriez-vous dédier ce morceau à quelques-uns d'entre eux dont vous êtes sûr qu'ils écouteront ce programme?
Ben je vais dédier ce morceau à une amie, à mon amie qui s'appelle Brigitte Froment.
Mmh.
Elle a le smile et elle me donne le smile à chaque fois que je la vois et que je regarde. Je regarde son visage pétillant et plein de vie, voilà.
Et moi, je vous dédie également Smile, et tout en vous remerciant de nous avoir consacré ce temps précieux et vous souhaitant également une bonne continuation dans votre travail.
Merci beaucoup, Franck.
Merci également, Thierry. À bientôt. Au revoir.
Vous écoutez Art et Culture. Art et Culture sur la RCI. Votre radio sur le net.
Ready? I'm ready.
Okay, here we go. Gray skies are gonna clear up. Put on a happy face.
Sing it, girl.
Brush off the clouds and cheer up. Put on a happy face.
Just like that.
Take off the gloomy mask of tragedy.
It's not your style. You'll look so good that you'll be glad you decided to smile.
Thank you.
Pick out a pleasant outlook.
Stick out that noble chin.
Crank. Wipe off that fear of doubt look.
Slap on a happy grin.
And spread sunshine all over the place. Just put on a happy face. Come on. Put on a happy face.
I think I will.
You're looking good, baby.
Put on a happy face. And if you're feeling cross and bitterish, don't sit and whine.
I know. Think of banana splits and licorice, and you'll feel fine.
Yeah, like that.
I knew a girl so gloomy.
Oh.
She never laughed or sang. She wouldn't listen to me, and now she's a mean old thing.
So sad.
So spread sunshine all over the place.
Put on a happy.
Put on a happy. Yeah. Put on a happy face.
Every day. Anywhere. Anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de notre programme. C'est malheureusement le moment de prendre congé de vous. Avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement M. Thierry de Carbonnière qui a accepté très généreusement notre invitation pour la réalisation de cette émission ensemble. Nous lui souhaitons une bonne continuation et espérons que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer. J'aimerais remercier également tous les artistes, musiciens, compositeurs et interprètes qui ont contribué également à la réalisation de cette édition de Art et Culture. Commençons par l'artiste Lionel Sinelli, l'artiste Philippe Decourou, le couple Denis et Isabelle Haye, ou Denisa tout simplement, l'artiste américain Steve Puglio, un très bon ami de la radio, et enfin, le musicien, compositeur et interprète Stéphane Patin, à qui nous devons le générique de ce programme. Je ne pourrais pas me permettre de partir sans remercier également la société Paul et Sephora, à qui nous devons les plus beaux morceaux que vous écoutez sur les ondes de cette radio. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de cette émission Art et Culture. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus merci tout en vous laissant avec une deuxième fois l'artiste suisse Philippe Decourou dans un morceau intitulé « Entre le rose et le noir ». Au revoir. Vous venez d'écouter Art et Culture. Art et Culture, l'une des rubriques socioculturelles de la radio chrétienne Ebenezer International. Art et Culture, animé par Franck Doristil, votre ami podcasteur. Thank you.
entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute. Je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. À quoi bon se battre? À quoi bon souffrir? À quoi bon chercher le moyen de combattre cette indifférence qui me fait vomir? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je connais le paradis, les sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Faut-il chanter l'amour ou hurler ma colère? À quoi bon se battre quand tu préfères au jour l'obscurité des ténèbres envahissant la terre? À quoi bon se battre? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est le sens de ma vie? Quel avenir? Quel espoir pour moi? Des questions que chacun se pose à un moment ou à un autre. Et s'il y avait une seule vraie réponse à toutes ces questions? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je me battrai encore, faible parmi les forts, mais en sachant qu'un jour, quand tout aura péri, il y aura la pluie.